Chapitre 6 À cause de Madame Canard. Hardi, mes amis, hardi! Criait Martin Dumas, hardi! Avec Prosper et Philippe, il était sorti de sa chambre et se précipitait sur les bandits qui fuyaient. Dans l'escalier, les bandits, pour se frayer passage, bousculèrent la charmante jeune femme de notre hôte, lui portèrent même un coup, soit de poing, soit de massue, en caoutchouc, dont elle garda au visage pendant longtemps la trace douloureuse. La massue en caoutchouc est une arme terrible. Les misérables qui en font usage assomment leurs victimes sans causer le moindre bruit. Martin Dumas, qui, en dépouillant les deux hommes qu'il avait fait prisonniers, avait trouvé sur eux des massues en caoutchouc, ne pouvait douter que cette arme ne fût l'arme de préférence de ses ennemis. L'arme qui tue sans donner l'éveil. Et sachant qu'il allait avoir à combattre ces misérables, il voulut que ces hommes ne se trouvassent pas en infériorité d'armement. Et il leur donna l'ordre de porter ce soir des massues en caoutchouc. On peut s'étonner que pareil armement se trouvât dans l'équipement d'hommes appartenant en somme à la police, qui précisément les interdit. Mais les hommes de la brigade de Martin Dumas, tout en appartenant à la police, se trouvaient quelquefois un peu en dehors. Ils formaient une brigade distincte, spéciale, comme un corps d'élite dont le roi des détectives avait la direction absolue et dont il assumait la responsabilité. Martin Dumas pouvait donc, pour le bien de la cause, la réussite de son entreprise, équiper ses hommes comme il lui paraissait nécessaire. Pour le moment, en courant après les fuyards, il n'avait pas d'armes en main. Mais les bandits fuyaient. Un coup manqué, le beau coup devenant mauvais, il valait mieux s'en aller que de risquer inutilement sa vie. Les bandits ne travaillaient pas pour la gloire. La fuite mettait à l'abri et permettait de recommencer peu après, dans de meilleures conditions. Ils fuyaient donc ce soir. Ils fuyaient d'autant plus qu'ils avaient reconnu la voix du roi des détectives. Ainsi donc, non seulement Martin Dumas n'était pas, comme il pouvait le supposer, comme il l'espérait, à Paris ou ailleurs, mais encore, se trouvant dans la villa qu'ils attaquaient, avait-il préparé la contre-attaque et à présent menait-il la défense ? Par expérience, les bandits savaient que Martin Dumas, quand il préparait une manœuvre, la préparait consciencieusement. Les exemples étaient trop récents pour qu'ils en puissent douter, et cela ne contribuait pas peu à augmenter leur affolement. Quand le coup de sifflet du commandant retentit, annonçant le sauve-qui-peut. Ce fut chez ces misérables une débandade, une fuite éperdue. Mais fuir n'était plus possible. Ce coup de sifflet du roi des bandits, annonçant à ses hommes la fuite, devenait le signal de l'attaque pour les hommes de Martin Dumas. C'était arrêté dans les prescriptions de combat de cette nuit. Martin Dumas avait dit à ses hommes en leur donnant ses ordres et arrêtant le plan de campagne, « Les bandits doivent venir nous surprendre. Bien entendu, ils ne nous surprendront pas puisque déjà nous sommes sur nos gardes. »« Oui, chef. Et les bandits, voyant leur coup manqué, se hâteront de donner l'alarme comme ils l'ont fait quand nous avons arrêté deux de leurs compagnons. » Un coup de sifflet. Oui, ce coup de sifflet vous dira à vous de sortir de vos cachettes, de vous montrer et de faire le nécessaire. Martin Dumas également donnait parfois un signal à ses hommes en se servant de sifflets. Il ne fallait donc pas s'exposer à une interprétation fausse qui pourrait amener une manœuvre contraire. La logique nous dit, fit en concluant Martin Dumas, que nous n'avons pas à donner de signal puisque notre riposte est soumise à l'attaque de nos ennemis. Oui, très juste, chef. Comme, selon toute probabilité, c'est eux qui recevront les premiers coups, c'est eux qui, surpris, donneront à leurs compagnons un signal pour annoncer la situation ou faire changer le plan premier de leur attaque. Donc leur signal nous servira. Les hommes de Martin Dumas comprirent admirablement et exécutèrent dans la perfection la manœuvre. Dès que ce coup de sifflet annonçant la fuite fut entendu, tous les hommes de Martin Dumas sortirent des cachettes dans lesquelles ils se tenaient depuis plusieurs heures. Et avec ardeur, avec joie, ils se ruèrent sur les bandits. Ceux-ci trouvèrent toutes les issues gardées. Ils étaient pris dans une souricière habilement tendue. La lutte alors s'engagea, violente, acharnée. Ce ne fut plus seulement à coups de massue de caoutchouc que les hommes bandits et détectives s'attaquèrent. Le revolver entra en scène et son crépitement se fit entendre. Une grêle de balles s'abattit sur la villa. Maintenant, des cris de blessés remplissaient le jardin. Des hurlements, des jurons, des cris de colère partaient de tous les coins du jardin ou du parc. Cela dura quelques minutes, puis la fuite est perdue, et enfin un silence que coupait seulement le long hurlement du vent, soufflant en tempête et les cris des blessés, les coin-coins du canard affolé. Peu après, une dizaine d'agents de Martin Dumas revenaient à la villa. Tous portaient la trace de la lutte, quelques-uns même étaient blessés. Des filets de sang coulaient le long du costume qu'ils avaient adopté pour passer et venir prendre leur poste. Mais aucun ne manquait à l'appel, que rapidement Prosper demanda.
Bien, bien, fit Martin Dumas, bien, c'est du beau travail, c'est une jolie victoire, merci mes amis.
Il serra les mains de ses hommes, qui enthousiasmés, heureux, oubliant leurs blessures, criaient à plein poumon.
Vive notre chef Martin Dumas!
Maintenant, dit le roi des détectives, occupons-nous des prisonniers et des blessés. Ceux d'entre vous qui sont touchés vont aller à Fontainebleau où on les pansera. Puis ils se dirigeront vers Paris, selon les instructions que j'ai données, que vous connaîtrez au fur et à mesure des besoins. On lui amena les prisonniers. Trois ou quatre bandits vêtus en touristes qui se trouvaient en fort mauvais état. L'un d'eux était littéralement assommé. Il avait reçu sur la tête un coup de massue et une balle l'avait traversé de part en part.
Celui-là, fit Martin Dumas, n'a guère que le temps de faire un acte de contrition avant d'aller présenter son âme au diable.
Les autres prisonniers étaient bâillonnés. Martin Dumas ne tenait nullement à entendre leurs jurons, leurs insultes, et il voulait épargner les oreilles de sa jeune hôtesse les mots horribles que la rage, la fureur allaient arracher à ses forces dévaincues. Pendant ce temps, le jour était venu. Dans le jardin, dans le parc, on put aller relever les traces du combat. Par places, des plaques de sang que la terre avait bu indiquaient l'ardeur de la lutte. L'hôte et sa femme, fort heureusement, n'avaient pas été atteints par les projectiles des bandits.
Il n'avait que des contusions douloureuses, sans doute, mais sans aucune gravité. Le mari avait roulé dans l'escalier, et la jeune femme portait à la figure la trace d'un coup de massue en caoutchouc qui, fort heureusement, n'avait pu qu'effleurer la peau, sans force confondante. Sans cela, la victime eût été infailliblement assommée. En somme, le bilan se trouvait au degré minimum du côté de Martin Numa. En revanche, c'était un désastre du côté du roi des bandits. Peut-être la défaite eût-elle été plus complète. Mais Martin Numa avait défendu, sous quelque prétexte que ce fût, de donner la chasse aux bandits. Il ne voulait pas de poursuite. La poursuite, en effet, pouvait non pas, comme dans une bataille d'armée contre armée, achever la victoire, mais au contraire, provoquer un revirement de fortune et précipiter peut-être un désastre. Car les hommes de Martin Numa n'étaient pas très nombreux. Martin Numa avait défendu de sortir du parc ou du jardin. Quoi qu'il arrivât, personne ne devait quitter la propriété. C'est pour cela que les bandits avaient pu s'échapper, se faufiler à travers les taillis, se sauver en sautant par les murs, par les haies. Le terrain déblayé, les hommes de Martin Numa étaient revenus vers leur chef, annonçant leur capture et demandaient de nouveaux ordres. Martin Numa, cependant, tout en se montrant très satisfait devant ces hommes, qui avaient accompli avec tant de dévouement leur devoir, n'était pas en lui-même tout à fait content. Et plus tard, il me dit: « Oh, cette affaire n'a pas marché comme j'aurais voulu, comme je l'avais préparé. » Mais cependant, ce fut une belle victoire pour vous. « Je ne dis pas, mais je devais cette nuit écraser tout à fait mon ennemi. Or, une fois encore, il s'est échappé. Donc, pour moi, ce n'est qu'une escarmouche, heureusement, sans doute, mais ce n'est pas la victoire désirée. » Et il me demanda: « Savez-vous qui a sauvé le roi des bandits ?»« La fuite. » « Ensuite, mais en premier, savez-vous qui, en protégeant le roi des bandits, a fait échouer mon plan tout en contrariant en même temps l'exécution du sien ?»« Ma foi, non. » « Mais le canard !»« Le canard. » « Oui, le canard. » Ce qu'il faut qu'il prouve, faut en toute chose compter avec ce qu'on désigne sous le nom de pelure d'orange, et qui est un rien plus fort que tout, le mieux organisé. Et fâché, cependant, ne pouvant s'empêcher de sourire, il reprit: nous connaissons les oies du Capitole, fatales à nos aïeux. L'histoire peut leur donner comme pendant le canard de Bois-le-Roi. Mais, demandai-je, comment ce canard pouvait-il se trouver dans la maison? Mais ce canard couvait. Couvait un canard? D'abord, ce canard était une canne. Un canard femelle, une madame canard, qui allait être maman. Ah, vous ne saviez pas qu'elle se trouvait là? Parbleu! Sans cela, je l'eusse, comme bien vous pensez, envoyé couver ailleurs. Oui, je m'en doute, je connais vos théories sur les animaux de garde. Une fois de plus, vous envoyez la vérité, la preuve. Oui, c'est juste. Donc cette canne était la canne préférée de notre charmante hôtesse. Or, les jours d'orage incommodent Madame Canard. Mais Madame Canard est nerveuse. Elle en craignait pour la bonne réussite de la couvée. Elle en hôtesse eut le dessein de la soustraire autant que possible aux trous atmosphériques. Et au lieu de laisser Madame Canard dans le poulailler, elle la fit monter dans une des chambres vides. Et souriant, il ajouta: Voilà pourquoi la maison, à mon insu, était transformée en capitole. Et voilà pourquoi l'alarme a été donnée par ce gardien trop vigilant qui a compromis toute l'affaire. Il conclut. Avouez, mon cher Courville, que les événements les plus sérieux et les plus importants sont à la merci de la chose la plus infime, souvent la plus ridicule. On a raison de dire que la destinée du monde tient à un grain de plomb.